À Kinshasa comme partout en République démocratique du Congo, plusieurs citoyens ont l'habitude de porter et de garder les armes de guerre dans leur domicile. Pourtant, la législation congolaise stipule qu'il est strictement interdit aux civils de porter les armes de guerre dans leur domicile, quel que soit le cas ou le motif. Cependant, que prévoit la loi sur la détention illégale d'armes? Nous allons justement parler aujourd'hui avec notre Dominique Amandou de l'ONG Avocats Sans Frontières et nous rappelons à tous ceux qui nous suivent à travers le pays qu'ils ont la possibilité de nous appeler au 081 070 2050. Avant de recevoir Maître Dominique Amandou, Berry Loutsaka, on s'étend sur la question avec vous puisque vous avez eu le temps de vous pencher là-dessus. Pour commencer, il est bon peut-être de définir à nos auditeurs ce qu'on entend par armes.
Bien sûr, Nicole, il faut d'abord dire que la détention illégale d'armes relève de la compétence militaire parce qu'un civil ne peut jamais détenir une arme de guerre. Voilà pourquoi nous avons posé la question au Major Nkoulou, auditeur général de l'auditorat militaire de la Gombe, pour qu'il nous dise c'est quoi exactement une arme. La réponse se trouve dans cette explication.
S'il faut qu'on parle seulement des armes de guerre, c'est du matériel militaire qu'on utilise pour soit défendre, n'est-ce pas, la patrie, et aussi bon, du matériel que certaines autorités ont, les autorités militaires surtout, pour leur protection personnelle. Le problème, c'est que le législateur n'avait pas premièrement défini les armes, lorsque, par exemple, il parlait de vol à main armée, ainsi de suite. Il y a eu des lois complémentaires qui sont venues définir les armes. Et on a défini l'arme comme étant tout engin ou tout instrument, n'est-ce pas, tranchant, perçant ou contondant. Quand nous rentrons dans ces définitions-là, on parvient maintenant à voir que les armes sont soit par nature ou par destination. Par nature en soi, ce sont des objets qui, lorsqu'on les regarde, on sait effectivement qu'il s'agit d'une arme. Prenons par exemple une arme revolver, l'arme Kalachnikov, le couteau. Ce sont des armes par nature. Alors, par destination, ce sont des objets qui en soi ne sont pas des armes. Mais les deviennent lorsqu'on les utilise dans le cadre de la commission des infractions. Un voleur qui entre chez vous avec un bâton. Le bâton en soi, ce n'est pas une arme. Quand il utilise une arme pour vous maîtriser, il entre avec une brique pour vous maîtriser, ça devient une arme. Même du piment, c'est aussi des armes.
Voilà, merci beaucoup pour toutes ces définitions. Alors, on va évoluer sur la question. Nous retenons qu'il y a des armes par nature et par destination.
Bien sûr, Nicole, une arme par nature, vous l'avez entendu, c'est comme du piment et comme l'a dit l'auditeur plutôt, et c'est quand on utilise ce piment pour la commission d'un forfait que ça devient vraiment une arme par destination.
Alors, regarde à tous ceux qui utilisent ce piment comme arme. Hein. mais quand on entend parler de la détention illégale d'armes, ça concerne quel type d'arme exactement?
Bien sûr, Nicole. Selon le code pénal militaire, il est strictement interdit, comme je l'avais dit, à un civil de détenir une arme de guerre. Un civil ne peut pas faire une demande de disposer d'une arme de guerre. Par contre, un militaire qui est par définition un homme en arme, lorsqu'il n'est pas en service, il ne doit pas disposer de son arme. Cela est une infraction appelée violation de consigne. C'est ce que nous ont dit les magistrats rencontrés à l'auditorat militaire de la Gombe.
Conformément à notre code pénal militaire, spécialement son article 203, l'arme de guerre est strictement interdite pour les civils. Donc, un civil ne peut même pas chercher à obtenir, à détenir légalement une arme de guerre. Toute détention d'une arme de guerre par un civil constitue une infraction de détention illégale d'armes de guerre, telle que prévue et punie par l'article 203 du Code pénal militaire.
La détention illégale d'armes, telle que définie par le législateur militaire, ne concerne que les armes de guerre. Alors, quiconque serait trouvé en possession d'une arme, alors qu'il n'en a pas le titre, c'est-à-dire que l'autorité compétente ne lui a pas donné le titre pour détenir ses armes, eh bien, il détient légalement. Ou alors, il n'a pas, n'est-ce pas, la sanction qui l'autorise à tuer les armes. Là, on parle de détention légale d'armes. Mais aussi, dans ces cas-là, vous savez, il y a peut-être une petite question qui se pose autour du militaire. Parce qu'en soi, le militaire, lorsqu'il n'est pas de service, il ne doit pas avoir son arme. Mais quand on trouve le militaire maintenant avec son arme, dans ces cas-là, souvent, nous parlons plutôt de la violation des consignes plutôt que de la détention illégale d'armes.
pratique, violation de consignes, détention illégale d'armes. Nombre de cas, on voit des militaires se promener parfois avec leurs armes. Hein.
Bien sûr, c'est donc une infraction de violation de consignes, qui est punissable par la loi.
Oui, mais nous avons appris que les civils peuvent détenir les armes, du moins certains. Alors, de quelles armes s'agit-il et comment faire pour s'en procurer?
Oui, Nicolas, à ce niveau, il s'agit des armes d'autodéfense, des armes de chasse, et pour s'en procurer, il faut faire une demande auprès du ministère de l'Intérieur tel qu'il est prévu par la loi. De plus en plus de détails avec ces avantages.
Le civil peut détenir les armes ci-après. Les armes blanches non empoisonnées, notamment les lances, les javelots, les javelines, les flèches, les piquets, les haches et le couteau de chasse. Mais aussi, il peut détenir les armes à feu, conçues pour la chasse ou destinées au sport ou à la protection individuelle. Ces armes-là peuvent être détenues par les civils, mais sous réserve d'obtenir une autorisation expresse telle que prévue par l'ordonnance loi numéro 85/035 du 15 septembre 1985, spécialement en ses articles 16 et 17.
Bon, la procédure, elle est prévue par la loi. Il faut que celui qui désire détenir l'arme s'adresse au ministre de l'Intérieur dans notre pays, c'est ce que la loi prévoit, en donnant les raisons pour lesquelles il veut détenir l'arme. Ces raisons peuvent être relatives à la chasse, si c'est quelqu'un qui veut détenir l'arme pour pouvoir exercer les activités de chasse, bon, il va justifier cela. Si c'est quelqu'un qui sent qu'il doit détenir l'arme pour sa protection, sa défense personnelle, il va également exprimer ces raisons-là auprès du ministre et ce dernier va apprécier si ça convient pour pouvoir lui accorder l'autorisation ou pas.
Oui, nous retenons que parmi les armes citées, on retrouve sur les objets. Hein.
Oui.
Pour certains, on a parlé de l'hache, hein, des haches. Bon, bon nombre pensaient que ce n'était pas une arme, mais bon, on peut aussi recourir à une hache comme étant une arme.
Bien sûr.
Mais pour certaines villes, néanmoins, Berry le Tchaka, parce que là, il dit que certaines villes, notamment certains chasseurs, peuvent utiliser l'arme à feu comme étant une arme, notamment à l'Équateur, notamment dans le Bas-Congo. Nous savons qu'il y a bon nombre de gens, hein, de chasseurs là-bas qui utilisent ces armes-là pour aller attraper le gibier.
Oui, effectivement. Et pour ça, il faut effectivement de faire une demande auprès du ministère de l'Intérieur, parce que c'est ça qui est dit dans la loi. Malheureusement, ce genre de loi ne sont jamais vulgarisées. Et voilà pourquoi n'importe qui peut aller acheter la lance, par exemple, ou la flèche, peut-être que c'est empoisonné, il ne sait pas, et puis il utilise finalement pour tuer le voleur qui vient dans sa maison, etc.
Le gibier.
Bien sûr, le gibier, et puis ça devient viande empoisonnée.
Voilà. Alors, une question me vient à l'esprit quand même, quelle est la juridiction compétente pour juger des crimes de détention illégale?
Bon, par rapport à cette question, nous avons contacté un avocat qui nous a dit que ça dépend. Ça peut être une juridiction militaire si l'arme détenue est une arme de guerre. Et si ce n'est pas le cas, il faut déférer l'accusé devant les cours et tribunaux de droit commun. Suivant cette explication.
J'ai eu à suivre le cas à distance d'un expatrié qui était entré au pays avec un pistolet qu'il avait dissimulé dans ses bagages et quelques temps après, il a été appréhendé et déféré devant le tribunal pour détention illégale d'armes. Il avait justifié pourquoi il détenait l'arme, mais il était en effet en infraction du fait qu'il n'avait pas déclaré à l'entrée qu'il était porteur d'armes et justifié pourquoi, en étant sur le territoire congolais, il tenait à garder son arme. Donc, il a été poursuivi pour cela. Je pense que ça dépend. Si l'arme qui est détenue par l'auteur de l'infraction est un effet militaire, à ce moment-là, va le déférer devant une juridiction militaire. Mais si c'est une arme qui ne provient pas de l'armée nationale de notre pays, comme le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure de quelqu'un qui avait amené son arme depuis l'extérieur, ce n'était pas un effet militaire puisque ce n'était pas une arme appartenant à l'armée nationale, celle-là avait été déférée devant la juridiction de droit commun. Donc, je pense que ça dépend. Si l'arme détenue est un effet militaire, à ce moment-là, on est déféré devant les juridictions militaires. Si c'est une arme qui ne provient pas de l'armée nationale, c'est donc la juridiction de droit commun qui doit connaître de ces cas-là.
Oui, alors aujourd'hui, si on arrête un chasseur qui détient une arme illégalement, Ben, c'est pas ça.
Bon, je pense que c'est le maître va donner toutes ses explications là-dessus. Mmh. Mais dans l'autre temps, je pense qu'il faut toujours demander de faire cette demande, parce que si vous arrivez à tuer quelqu'un avec cette arme-là, on va bien suivre la filière pour savoir est-ce que vous avez eu cette autorisation, est-ce que vous avez fait cette demande, et pour savoir, pour peut-être alléger la sentence au cas où c'est un meurtre.
Alors, ou faire la demande, ça coûte combien? On va en parler avec maître Dominique Amando, qui est bien placé là-dessus, et nous rappelons à tous ceux qui souhaitent intervenir, qui sont les bienvenus, au 081-070-2050. Vous qui nous suivez sur Internet, alors écrivez-nous à action@radiocapi.net. À la prochaine, bisous.
Je vous en prie, l'étoile.
Plus d'informations, plus de sport, plus de culture, plus de musique, pour plus de plaisir sur Radio Okapi en ondes courtes, tous les matins de 5h à 7h, heure de l'Ouest, 6h, 8h à l'Est, sur 9635 kHz. Et tous les soirs, de 17h à 18h, heure de l'Ouest, 18h, 19h, heure de l'Est, sur 11890 kHz. Vous bougez, nous bougeons avec vous.
Vous savez que tous les lundis, on aborde un sujet en rapport avec le droit. Aujourd'hui, avec maître Dominique Camoindou de l'ONG Avocat Sans Frontières, nous parlons de la détention d'une arme. Que dit la loi congolaise à propos de la détention d'une arme? Vous souhaitez intervenir, faites-le déjà maintenant, hein, avec vos questions. Si vous avez des questions, posez-les maintenant. Si vous avez des témoignages à faire, il est bon de les faire également maintenant, 081-070-2050. Maître Dominique Camoindou, bonjour.
Bonjour, Nicole.
Alors, nous nous retrouvons encore aujourd'hui avec vous pour parler cette fois-ci de la détention d'une arme. Nous savons que dans bien des cas, la population congolaise n'est pas très bien informée à ce sujet. Alors, que prévoit la loi sur la détention illégale d'armes en République démocratique du Congo?
Merci beaucoup, Nicole. Au terme de la loi, particulièrement de l'ordonnance loi de 1985, on entend par arme tout instrument ou engin qui peut blesser ou qui peut donner la mort. Et dans cette catégorie, la loi distingue les armes de guerre et les armes qui ne sont pas des armes de guerre. En ce qui concerne les armes de guerre, la détention des armes de guerre est impérativement interdite par la loi. Nul, sous quelque prétexte que ce soit, ne peut détenir une arme de guerre.
Même s'il s'agit d'un militaire,
s'il s'agit
d'un policier.
S'il s'agit des militaires, les militaires ont une réglementation pour la détention des armes et les armes de guerre sont gardées au dépôt ou sont remises aux militaires quand ils sont en opération ou quand ils sont en service selon les prescriptions et la réglementation et les instructions des autorités. Mais lorsque un militaire prend une arme de guerre, l'amène chez lui, la garde comme ça en violation des prescrits de la loi, ces militaires peuvent s'exposer aussi aux sanctions prévues par la loi.
Et pourtant, dans les cas, lorsqu'on voit les militaires dans les rues, ou encore les policiers, ils sont souvent armés, hein, maître Dominique Amandou.
Effectivement, ils sont armés, ils doivent être armés pour protéger et la population et l'intégrité du territoire national. C'est pour cela qu'on les appelle d'ailleurs des hommes en armes. Lorsqu'ils sont en service, ils sont tenus d'avoir des armes dans le cadre de leur mission.
Mais comment savoir qu'ils sont en service? Parce que bon, c'est toujours difficile, hein?
Bon, effectivement, c'est toujours difficile, mais c'est pour cela qu'il y a la police militaire qui procède aux vérifications et aux contrôles sur les voies publiques lorsqu'on rencontre des militaires. Généralement, la police militaire demande aux militaires rencontrés pourquoi ils sont en circulation, quel est leur service, où est-ce qu'ils vont. Et c'est pour cela qu'il y a des mécanismes mis en place conformément à la loi pour pouvoir veiller à ce que la réglementation en la matière soit toujours respectée.
Alors, quelles sont les conséquences pour ceux-là qui détiennent illégalement des armes chez eux à domicile et qui nous suivent en ce moment?
Effectivement, je disais que dans ces cas-là, pour les armes de guerre, c'est une interdiction formelle, mais pour les autres armes, les armes à feu qui peuvent être utilisées soit pour la chasse ou soit pour la défense ou la protection individuelle, ou certaines armes blanches comme des épées, des lances, des javelots empoisonnés, la loi prévoit que les personnes qui justifient des raisons pour pouvoir détenir ces armes doivent demander l'autorisation au ministère de l'Intérieur. Ils doivent obtenir du ministre de l'Intérieur le permis de port d'armes. Et dans ces cas-là, la loi prévoit qu'ils introduisent leur demande, qu'ils justifient pourquoi ils font cette demande et déclinent leur identité en déposant certaines pièces et certains documents. Et lorsque l'autorité apprécie et trouve que la demande est fondée et qu'il y a possibilité, on peut donner un permis de port d'armes. Mais lorsque on n'a pas le permis de port d'armes et que l'on porte une arme sur soi, là, on tombe sous les coups de la détention illégale d'armes.
Oui, mais comment savoir? Parce que bon, dans bien des cas, pour détenir une arme, on n'a pas de permis de port d'armes. Tous ces chasseurs qui opèrent dans certaines villes de la RDC, dans certaines provinces, notamment au Bas-Congo, notamment à l'Équateur, et pourquoi pas au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, est-ce qu'ils ont des permis de port d'armes?
C'est difficile de le savoir, mais je pense que la plupart n'ont pas de permis de port d'armes. Et là, ils sont en train de violer la loi, ils doivent régulariser leur situation auprès des autorités compétentes.
Alors pour ceux-là qui nous suivent, s'ils doivent régulariser leur demande, ils devraient s'adresser à quel service?
En principe, pour les personnes qui sont à Kinshasa, elles peuvent s'adresser au ministère de l'Intérieur pour demander le permis de port d'armes. Ceux qui sont à l'intérieur du pays peuvent s'adresser au gouvernorat de province, donc au gouverneur de province, qui peut leur autoriser par délégation du ministre de l'Intérieur.
Et est-ce que c'est une longue procédure? Il faut débourser des moyens, il faut recourir à un avocat? Parce que bon, on peut aussi vous suspecter, hein, pour rien d'ailleurs.
Effectivement, c'est pour cela que la loi exige que l'on puisse justifier les motifs pour lesquels on demande de porter une arme chez soi. Pourquoi on veut détenir une arme? On doit justifier cela. Et l'autorité habilitée va procéder à l'examen du dossier et voir s'il le faut ou pas, s'il peut l'ordonner ou pas.
Voilà l'auditeur qui souhaite réagir, certainement en fonction de vos propos, hein, Maître Dominique Amando. On l'écoute et puis on revient à vous. Voilà, l'auditeur va intervenir dans un instant. Hein. On aura certainement l'occasion de l'écouter. Oui, vous êtes en ligne, monsieur. Bonjour.
Alors, bonjour. J'appelle de Mandarassé, Mongo Gilbert.
Oui, bonjour, monsieur. Alors, quelle est votre réaction en fonction de ce que nous sommes en train de dire? Est-ce que vous avez une réaction à ce sujet?
Oui, je voudrais juste poser ma question à notre invité, monsieur Dominique.
Allez-y, Amando. On vous écoute.
Oui, j'ai une arme de chasse. Je l'ai achetée lorsqu'il y avait l'insécurité en Bandaka pour me protéger. Alors, quand je l'ai achetée, je suis allé à la mairie, j'ai des documents me permettant de garder cette arme. Et puis, j'ai été visité 3 fois par des hommes en armes. Alors, la 3e fois, j'ai failli tirer sur ces hommes-là, mais j'ai hésité. Bon, au cas où j'avais tiré sur ces hommes-là, qu'est-ce qui pourrait arriver? Est-ce qu'on allait m'arrêter ou quoi? C'est ma question.
Oui.
Effectivement, c'est une arme. Vous dites que vous l'aviez eue et vous avez les autorisations requises et vous la gardez pour question de protection individuelle. Mais lorsque vous êtes attaqué ou agressé, si ces personnes sont aussi armés par des armes à feu et que vous tirez sur eux le premier, là, c'est, vous agissez dans le cadre de la légitime défense. La légitime défense est une cause de justification. La légitime défense enlève le caractère infractionnel à l'acte posé parce que c'est un acte qui est justifié par la protection.
Oui, mais vous avez dit une chose, monsieur. Est-ce que vous avez un permis de port d'armes? Il est déjà parti.
Oui, mais il doit savoir aussi que lorsque on doit se défendre, on ne peut pas se défendre avec une arme à feu pour tuer un voleur qui vient les mains nues. Par exemple, qui n'a rien à main, bien sûr, qui peut avoir un bâton. À ce moment-là, la proportion entre l'attaque et le moyen utilisé pour se défendre, il y a une grande disproportion. Dans ce cas-là, là, les juges peuvent apprécier et dire qu'il y a eu peut-être volonté de causer la mort.
Oui.
Et bien, condamné pour homicide involontaire. On doit tenir compte de ça aussi.
Oui, mais il a dit une chose, c'est qu'il a fait quelques démarches au niveau de la mairie pour arriver à avoir un permis de port d'armes, mais jusqu'à ce jour, ça n'a pas évolué.
Ah, mais si il n'a pas de permis de port d'armes, il ne peut pas détenir une arme chez lui. Là, il tombe sous les coups de l'infraction de la détention illégale d'armes. On doit en principe amorcer les démarches lorsqu'on veut avoir une arme avant même de l'avoir. C'est-à-dire lorsque on envisage d'avoir une arme, on commence les démarches. Et lorsque on a l'autorisation, c'est à ce moment-là qu'on peut s'en procurer et garder chez soi. Lorsqu'on garde déjà l'arme à la maison avant d'avoir l'autorisation, quelle est la situation dans laquelle la personne se met entre la période de l'obtention de l'arme et celle de l'accord des autorités? Donc, pendant cet intervalle-là, la personne se trouve dans une situation d'illégalité.
Il est revenu, peut-être qu'il a nous fourni quelques explications à ce sujet. Monsieur, vous êtes à nouveau avec nous, hein?
Oui, alors, je voudrais répondre à la question que vous m'avez posée, si j'ai un permis.
Oui.
Oui, j'ai un permis, donc genre un document autorisant à détenir une arme de chasse. C'est une arme de chasse. J'ai bien dit que je vais faire avec ça, la chasse. Mais c'est pas pour la chasse, c'est juste pour me défendre. Il y avait l'insécurité, pour le moment, il y a du calme. Hein, avant, donc, juste pour me défendre. Et un autre document autorisant à avoir au moins 25 cartouches, c'est du moins 100.
Et on vous a.
Deux documents. L'autre, c'est le permis.
Oui.
Les gens qui sont autorisés à faire la chasse avec cet arme de chasse. Et l'autre, c'est les documents autorisés à avoir au moins maximum 25 cartouches. Donc, c'est les documents valables.
Vous avez les documents valables et ça n'a pas été un problème pour vous, pour avoir ces documents? On vous a livré cela facilement?
Non, il y a des droits. J'ai payé des droits, C'est légal. C'est légal. Donc, j'ai payé des droits et voilà, j'ai tout payé. On a pris les numéros de l'arme et tout ça.
Mm.
Et puis, donc, j'en ai. Et ma chasse, mais moi, je l'ai gardé pour l'autodéfense.
Tout à fait.
Ah, déjà là, je viendrai et moi, je
Oui, c'est bien, mais il y a beaucoup de gens qui vous suivent à travers le pays. Ils aimeraient savoir, ça vous a coûté combien pour avoir ces droits de permis d'armes?
Ça, c'est pour la chasse, donc mon droit à l'arme de chasse.
Oui.
C'est,
on vous a demandé combien? On vous a demandé combien exactement?
10 dollars.
En tout cas, c'est bien de nous préciser tout cela. Hein. Monsieur, merci d'avoir intervenu. Si vous souhaitez encore poser d'autres questions, vous êtes les bienvenus. Alors, on va poursuivre avec Maître Dominique Camoigny. Maître, vous avez suivi ses explications. On lui a délivré le permis de port d'armes pour la chasse. Mais bon, il l'utilise comme un moyen de protection. Est-ce qu'on peut se servir du permis de port d'armes comme moyen de protection?
On peut aussi demander le permis de port d'armes pour détenir une arme dans le but de sa protection individuelle. Lorsqu'on estime qu'on est obligé par la profession, par les travaux que l'on fait et par d'autres actes que l'on pose, qu'on peut être soumis à des menaces, à des attaques, on peut, pour la protection individuelle, demander de détenir une arme et obtenir pour cela un permis de port d'armes.
Oui, et vous avez suivi, la démarche a été très facile pour ce monsieur. Ça n'a coûté que 10 dollars. C'est ce qu'il nous a dit, et ça n'a pas pris beaucoup de temps, on dirait.
Voilà. Effectivement, l'autorité a agi avec célérité et a répondu.
Alors, on retient également autre chose, Maître Dominique. Aujourd'hui, pour ceux qui souhaitent se protéger face à l'insécurité, ils peuvent aussi demander ce permis de port d'armes.
Effectivement, toute personne peut demander et obtenir le permis de port d'armes, mais ce qu'on conseille, c'est qu'avec la circulation de plusieurs armes légères dans le pays, cela peut aussi donner lieu à plusieurs actes criminels, à des exactions, et d'autres personnes peuvent se servir de ces armes pour pouvoir s'en prendre à la population. Ce qui est à conseiller, c'est que les autorités gouvernementales prennent des dispositions utiles pour pouvoir sécuriser les populations. Que les gens ne pensent pas que pour bien être en protection, il faut avoir une arme chez soi, mais que les gens se sentent sécurisés par l'armée, par la police et par les autorités du pays.
Oui, d'ailleurs, dans un instant, nous irons dans la ville de Kinshasa pour parler de l'acquisition d'une centaine de véhicules et motos par la police nationale, parce que la police voudrait augmenter sa capacité et aussi fournir plus d'efforts. Dans les cas, on se plaignait du fait que la police n'était pas suffisamment bien équipée, n'avait pas de moyens de transport pour se rendre à un coin bien précis lorsqu'il y avait un problème. Mais maintenant, ben, je crois que ce problème sera résolu puisqu'ils ont des véhicules à leur disposition et même des motos. Maître Dominique Camoigny, pour évoluer sur la question, aujourd'hui une chose est certaine, pour tous ces chasseurs qui opèrent dans les provinces, et là nous sommes au Bas-Congo et peut-être c'est dans le Nord-Kivu et Sud-Kivu, bon nombre peut-être n'ont pas de permis d'armes, mais tout le monde sait qu'il est chasseur. Alors est-ce obligatoire, en étant chasseur, d'avoir tout de même un permis de port d'armes?
En principe, la loi autorise que toute personne qui veut avoir une arme, même une arme de chasse, dès lors qu'il s'agit d'une arme à feu, même lorsqu'il s'agit d'une arme blanche, comme des lances, des épées, des javelots empoisonnées, pour cela, on doit avoir une autorisation, on doit avoir un permis de port d'armes. Pour les personnes qui sont à l'intérieur du pays, je pense que les autorités de la territoriale doivent vulgariser la loi, faire savoir à la population ce que prévoit la loi et les sanctions auxquelles ces personnes s'exposent en détenant des armes sans autorisation. Et elles peuvent même faire, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, elles peuvent même faire des démarches au niveau des bureaux des territoires et les administrateurs des territoires peuvent étudier les dossiers et les transmettre au gouverneur de province pour autorisation. Donc cela ne dépend pas nécessairement que les gens viennent à Kinshasa ou que les gens aillent au chef-lieu de province.
Oui,
c'est mieux que ces personnes régularisent leur situation.
Oui, c'est mieux, mais à supposer qu'il n'y ait pas de contrôle. Ces personnes ont toujours opéré facilement, il n'y a jamais eu de contrôle. Est-ce qu'il y a des sanctions auxquelles ces personnes s'exposent?
Effectivement, vous dites qu'il n'y a pas de contrôle parce que des problèmes ne se posent pas, mais lorsque, pour des raisons de sécurité, l'autorité ordonne qu'il y ait une perquisition dans un quartier donné ou dans une collectivité donnée, on peut découvrir une arme à la maison et là, on peut s'exposer aux sanctions prévues par la loi. Effectivement, ou lorsqu'on peut être amené à se saisir de cette arme dans une autre circonstance, par exemple, pour répondre à l'attaque d'un agresseur ou d'un voleur. Dans ces cas-là, l'autorité saura que telle personne détient une arme. En principe, lorsqu'on garde une arme à feu sans autorisation de l'autorité, on commet l'infraction de la détention illégale et la peine va de 5 à 10 ans de prison et d'une amende. Lorsqu'on garde une arme blanche, une épée, une lance empoisonnée, la sanction est de 1 an des prisons prévues par la loi.
Dans bien des cas, les sentinelles utilisent les lances empoisonnées. Est-ce que ces sentinelles aussi peuvent subir les conséquences des sanctions, Maître Dominique Camano?
En tout cas, la loi ne donne pas des excuses. La loi est stricte. La loi dit que pour détenir une arme, il faut avoir un permis de port d'armes délivré par l'autorité compétente. Mais pour ce qui est des armes blanches, qui ne sont pas, par exemple, il s'agit des lances non empoisonnées, parce qu'un couteau, les sentinelles ont parfois des couteaux, ont des machettes qui sont des armes blanches, mais dès lors que ces armes ne sont pas empoisonnées, là, on peut les détenir.
Sans pour autant avoir un permis.
Voilà, parce que nous savons que dans presque toutes nos maisons, il y a des machettes, par exemple, mais on les garde, on ne les considère pas comme étant une arme, mais il arrive qu'on puisse s'en servir en cas d'attaque.
Oui, et dans bien des cas, il y a des bouclages dans tel ou tel coin de la ville, et qu'on arrive à retrouver peut-être des armes à feu chez vous.
Oui, là, c'est dangereux. On ne peut pas détenir une arme à feu à la maison sans autorisation.
Maître Dominique Amandou, je crois qu'on peut s'arrêter là. Nous vous remercions d'avoir été des nôtres, et nous vous disons à la prochaine.
Merci, Nicole.